Et au menu de notre club des têtes au carré cet après-midi, une conférence anti-fin du monde, le bien-être, un ami des neurones, et puis des œuvres d'art pour nous métamorphoser. Je vous présente mes invités dans un instant. Les personnes séropositives, toujours victimes de discrimination, et c'est aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, l'association AIDS dévoile son nouveau rapport, La face cachée des discriminations. Grandes écoles interdites, restrictions d'entrée à de nombreux corps d'État, refus de soins. La liste est longue. On fait le tour dans un instant à la une avec vos réactions sur Twitter.
Stéphanie Texier réalise ce club des têtes au carré préparé aujourd'hui par Carole Sauvage.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Crise écologique, empathie esthétique, neurones donc aujourd'hui dans le club avec mes invités Catherine Dolto, Emma Laclone, Pierre-Marie Liedo et Pierre Lemarquis. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bienvenue. Zumain, la conférence anti-fin du monde. Catherine Dolto, Emma Laclone, vous revenez ensemble pour une représentation à Paris sur la scène du Châtelet. Ce sera lundi soir, jour de l'ouverture de la COP21. Catherine Dolto, c'est votre façon à vous de participer à ce grand enjeu autour de l'écologie?
Oui, pour moi c'est la meilleure.
Ouais. Et donc, vous avez décidé de préparer ce spectacle en pensant à cette échéance en particulier?
Non, je crois que tout le monde sent comme ça monter une espèce d'exigence et de prise de conscience et que ça se fait comme ça.
Mmh. Emma Laclone, vous pensez arriver à nous faire rire avec un tel sujet?
J'y arrive. sur certaines choses, oui, ça marche. Ouais. Ça marche, oui. Mais pas que. Pas que, bien sûr.
Donc, ce sera entre le rire et la prise de conscience.
Il y a des gens qui sortent et qui nous disent on a beaucoup ri, mais on a pleuré aussi.
20h donc au Théâtre du Châtelet avant une tournée en France et vous serez même en Alsace demain.
À Tannes.
À Tannes, exactement. Pierre-Marie Liedo, être bien dans ses baskets, c'est bon pour les neurones?
Bah écoutez, on va en discuter. Effectivement, on s'aperçoit combien le cerveau est vulnérable et combien il faut le chérir.
Oui, on va parler beaucoup de plasticité cérébrale, hein, entre autres avec vous. On reviendra sur ce thème de recherche qui a fait l'objet d'une conférence avec TEDx Paris, notre partenaire. Pierre Lemarquis, les œuvres d'art sont justement capables de nous transformer?
Oui, bien sûr, c'est presque comme des êtres vivants. On peut les ressentir de l'intérieur. Elles vont modifier nos circuits cérébraux, nous faire voir les choses différemment et parfois nous métamorphoser.
Oui, et ça se passe aussi dans le cerveau, hein, comme on le verra avec vous. Vous publiez l'empathie esthétique chez Odile Jacob. Voilà pour les thèmes dont nous allons parler. Les auditeurs nous rejoignent avec les questions et les messages. Franceinter.fr. À la une de la science aujourd'hui, ce rapport de l'association AIDS autour des discriminations subies par les personnes séropositives. Bonjour Christian Andréot.
Bonjour.
Vous êtes directeur général délégué de AIDS, également avec nous par téléphone. Paul Samak, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Christian Andréot, quelles sont les principales discriminations dont sont victimes encore, toujours, les séropositifs aujourd'hui?
Alors, dans notre rapport, qui est malheureusement loin d'être exhaustif, nous avons pointé quatre atteintes aux droits fondamentaux des personnes séropositives. La liberté de circulation, d'une part, les refus de soins, d'autre part, les obstacles aux carrières, notamment l'école de la magistrature et d'autres grandes écoles. Et sur la troisième partie, l'accès à l'emprunt et à l'assurance.
Oui. La liberté de circulation, vous pouvez nous en dire juste un petit peu plus tout de suite?
La liberté de circulation, c'est au niveau international, certains pays qui interdisent encore l'entrée aux personnes séropositives. Mmh. Et au niveau national, ce sont par exemple des barrages routiers en Guyane qui coupent le territoire en deux et empêchent la circulation de personnes qui doivent aller pour des soins de première nécessité de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple.
Ça se passe en France, donc en
Ça se passe en France.
Un chiffre, un cabinet dentaire sur trois fait preuve de discrimination. Ce n'est pas nouveau. Pourquoi le problème persiste, Paul Samak?
Écoutez, nous avons déjà pris connaissance de cette enquête, de ce testing qui a été fait effectivement par l'association AIDS au mois de juin. Et nous sommes déjà exprimés, nous avons d'abord été effectivement surpris par l'ampleur de ces refus de soins. Et puis nous avons aussitôt été atterrés qu'il y a encore des refus de soins. Atterrés, et ce n'est pas du tout dans notre éthique, parce que il y a un article extrêmement important de notre code de déontologie qui dit que les chirurgiens dentistes doivent soigner avec la même conscience tous leurs patients, quelle que soit leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou non à une ethnie, à une nation, une religion déterminée, etc. Et que et également par rapport aux sentiments qu'ils peuvent éprouver à l'égard de certaines personnes. Ça ne concerne pas que les personnes séropositives, mais toutes les discriminations qui peuvent être effectuées. Donc nous avons réagi fortement en déclarant que nous étions sincèrement choqués par cela et que nous ne comprenons pas ici pour quelles raisons on peut encore avoir peur de soigner des séropositifs, car nous avons mis au point, la profession a mis au point, nous-mêmes, avec les sociétés scientifiques, avec les ministères, le ministère de la Santé, nous avons mis au point des protocoles d'hygiène et de stérilisation de nos instruments, et ça comporte, si je voulais que j'entre dans le détail...
Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on voudrait écouter aussi M. Andréot, mais avant de l'écouter, on va écouter un extrait du testing que EDS a réalisé auprès des cabinets dentaires en France. C'était en avril.
Voilà, c'est un stage, s'il vous plaît.
D'accord.
Je me permets de vous apporter une petite précision, savoir que je suis séropositif au VIH.
D'accord, c'est gentil de me le dire.
C'est normal.
C'est mieux parce que nous, en général, les personnes dans votre cas, on préfère les mettre en fin de matinée, ça me permet de bien nettoyer le cabinet après, tranquillement, hein, au cas où. Voilà.
Ce qu'il y a, c'est que si vous n'êtes pas patient du docteur, elle prend pas pour les détartrages. Il faut vraiment être patient du docteur depuis quelques années. Et donc, en même temps que les soins qu'elle fait, elle fait les détartrages.
Ah, d'accord.
Oui, on m'a dit que vous étiez séro, c'est ça?
Oui.
Ben, je pense que c'est par préférence, il vaut mieux pour vous que vous alliez à l'hôpital, comme ça ils prennent plus de précautions. Mais disons, ce qui me concerne, j'ai pas l'habitude de soigner ces patients. C'est pas que cela, même les hépatites, tout ça, j'ai pas trop l'habitude. C'est pas que votre cas. Hein, appelez-les, je pense, et sinon, ben, regardez qui c'est qui peut le faire, si vous préférez en privé, quoi.
Voilà, Christian Andréot, c'était en avril dernier, hein. C'était pas au siècle dernier, hein.
Exactement.
Donc toujours des réactions très très importantes, évidemment. Alors, vous avez interrogé 400 cabinets dentaires. Là, on avait trois extraits, mais ils sont très représentatifs des réponses qui ont été données au téléphone ou pas?
On a eu d'autres réponses du style, bah, avec vous, je mettrai deux paires de gants, c'est pas grave. Mmh. Oui, vous pouvez venir, un détartrage, c'est 150 euros. J'ai pas de rendez-vous pendant 6 mois, etc. Sachant qu'on avait une méthode extrêmement rigoureuse, c'est-à-dire qu'on a randomisé, donc sélectionné de façon aléatoire les praticiens dans les villes, sélectionné de façon aléatoire aussi, et une interrogation en double avec une personne sur le même scénario, mais qui était séronégative. Mmh. Et donc là, on a bien vu aussi les différences dans l'obtention des rendez-vous.
Paul Samak, les dentistes sont des personnes qui ont une formation scientifique importante. Comment vous expliquez cette peur encore?
Écoutez, certains sont certainement maladroits, mais lorsqu'ils proposent de mettre des doubles gants, c'est une précaution qui peut parfaitement s'avérer utile. C'est peut-être maladroit de le dire, mais il faut le faire parce qu'en cas de blessure ou de piqûre, la charge virale est très nettement diminuée et les risques sont très nettement diminués. En fait... La transmission, la contamination croisée, si les protocoles sont bien respectés, et nous faisons souvent des contrôles de cela, si c'est bien respecté, il n'y a aucun risque. Par contre, il existe effectivement un éventuel risque pour le praticien, pour son assistante, pour l'équipe dentaire. Donc, ce n'est pas inutile de mettre des doubles gants. Il faut savoir aussi que... des progrès donc vraiment très très importants ont été apportés dans ce domaine, dans les cabinets dentaires, qui sont des lieux sûrs maintenant.
Ça veut dire un protocole particulier, Christian Andréot?
Alors c'est sûr que nous, de notre côté, on ne conseillera jamais à personne de mettre deux préservatifs. Ça c'est clair. Par contre, nous, ce dont on a besoin, c'est d'une législation renforcée pour lutter efficacement contre les refus de soins. Malheureusement, celles à venir dans la loi de santé sont insuffisantes. Mmh. On y reviendra sans doute par d'autres moyens, mais il faut absolument une législation plus contraignante, la reconnaissance des actions de testing et l'inversion de la charge de la preuve.
Mmh. Alors Christian Andréot, au-delà du problème des soins dentaires, hein, votre rapport s'intéresse également aux possibilités de carrière aujourd'hui des séropositifs. Et là aussi, on trouve de nombreuses barrières, de nombreux obstacles.
Alors, on trouve des choses totalement aberrantes qui sont issues de législations très anciennes qui n'ont jamais été revues. Nous avons été interpellés par rapport à l'interdiction d'entrée à l'École nationale de la magistrature, par exemple, par une personne qui avait découvert, qui souhaitait passer le concours et qui a découvert que c'était impossible. C'était impossible, mais par rapport à une législation très très ancienne, mais qui a jamais été revue, donc absolument pas pris en compte les avancées de la science. L'École de la magistrature a voulu bouger, nous avons saisi Christiane Taubira qui a pris un engagement fort, et cette discrimination devrait être levée dans la loi Justice 21. Il en reste encore beaucoup. Polytechnique, Saint-Cyr. Alors Polytechnique a bougé également. Ils s'engagent à modifier leur législation, mais il y a sans doute beaucoup d'autres écoles n'ont pas eu le temps de tout faire. Mmh. Mais il y a toutes les carrières militaires, gendarmerie, pompiers. Une personne séropositive ne peut pas jouer du clairon dans une fanfare des pompiers, par exemple.
Oui, une fanfare des pompiers, bien sûr. Ou éteindre un feu, hein, par exemple.
Ou éteindre un feu, c'est ça.
Catherine Dolto.
Mais je suis stupéfaite.
Mais oui, je vois.
Oui, je sais pas. Je pensais, justement, dans la conférence, on parle pas mal du néolithique. Oui. Je dirais qu'on y est.
Quasiment. Axel, dernière question très vite.
Est-ce que, une question précise, est-ce qu'un séropositif va prendre des risques supplémentaires ou faire courir des risques supplémentaires s'il essaye d'éteindre un feu?
Non, mais absolument pas. Absolument pas. On insiste maintenant sur le fait qu'une personne séropositive traitée peut avoir une espérance de vie identique à une personne séronégative. Et là, on voit bien que la science a avancé beaucoup plus vite que la société.
Merci beaucoup Christian Andréot, donc rapport publié hier. Merci également à vous Paul Samak pour votre éclairage. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des molécules voitures dans les starting blocks, le CNRS organise l'an prochain un rallye totalement inédit de nanovéhicules. Les 5 équipes ont aujourd'hui dévoilé leur bolide composé au maximum d'une centaine d'atomes. Ils seront propulsés grâce à un courant électrique sur un circuit composé d'atomes d'or et de seulement 20 milliardièmes de mètre. Loin d'être futile, cette course, invisible évidemment à l'œil nu, permettra de montrer le degré de contrôle des molécules machines déjà atteintes et de stimuler la recherche dans ce domaine. Les bonobos ont le rythme dans la peau. Une étude américaine menée sur une femelle en captivité montre que ces primates sont capables de reproduire spontanément un rythme au tambour après l'avoir entendu une première fois. Et mieux encore, ils réussissent également à se synchroniser avec un musicien humain et à ces changements de tempo, des capacités similaires à ceux d'un enfant de 8 ans, précisent les chercheurs. Et puis pour terminer, une vidéo de la parade nuptiale avec un mâle de la pieuvre d'une taille inférieure à celle de la femelle. On le voit dans cette vidéo s'accrocher à elle de toutes ses forces et tenter de ne pas la lâcher pour la séduire. Cette pieuvre est également connue pour ses talents d'imitation, capable de reproduire le physique, la couleur et le comportement de plus de 15 animaux marins différents selon le prédateur auquel elle est confrontée. Les images de ce dragueur très envahissant sont sur le Twitter et le Facebook de la Tête au Carré. Allez, le club dans un instant.
Nous savons encore rien, mais ce moment est bien. On ne se le dira que demain, quand ça le sera moins. Nous n'en savons encore rien, mais cet instant est mieux que ce que l'on imaginait, que dans un jour ou deux. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool. Comme un bon vent dans un jardin, comme ça pour rien. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool. Comme un bon bain qui ne sert à rien, mais qui fait du bien. Que ces petits riens feront les grands moments. Qu'on en dira, oh putain, tu te souviens du bon temps. On se dira toujours qu'on en a pas assez profité. Alors baisons le casse, histoire de ne pas le regretter. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool. Comme un bon vin dans un jardin, comme ça pour rien. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool. Comme un bon bain qui ne sert à rien, mais qui fait du bien. La vie c'est cool, cool. La vie c'est cool, cool. La vie c'est cool, cool. Quand la vie c'est cool, cool. Nous n'en savons encore rien, mais ce moment est l'un de ce qu'on aimera penser quand ça n'ira pas bien. Nous n'en savons encore rien, mais ce moment sera loin quand on se dira, oh putain, là j'y retournerai bien. La vie c'est cool, cool. Quand la vie c'est cool, cool. Comme un bon vin dans un jardin, comme ça pour rien. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool. Comme un bon bain qui ne sert à rien, mais qui fait du bien. La vie c'est cool, 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 cool. Quand la vie c'est cool, 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 cool. La vie c'est cool, 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 cool. Quand la vie c'est cool, 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 cool. Ce moment deviendront de grands crus auxquels on n'aurait jamais cru. Surtout pas d'en avoir bu. Évitons-les si j'avais su. La vie c'est cool, cool.
Quand la vie c'est cool, cool.
Quand la vie c'est cool, cool.
Cool, cool.
La vie c'est cool, cool.
Quand la vie c'est cool, cool.
Quand la vie c'est cool, cool.
Cool, cool.
Quand la vie c'est cool, cool.
Cool, cool.
Quand la vie c'est cool, cool.
La vie c'est cool et c'est Antoine Hainaut.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Une conférence anti-fin du monde, le bien-être, un ami pour nos neurones et puis des œuvres d'art capables de nous faire renaître. Ce sont les sujets du club cet après-midi avec mes invités Catherine Dolto, médecin, pédiatre, aptothérapeute, Emma Laclone, humoriste. Pierre-Marie Liédot, vous êtes directeur de recherche au CNRS ainsi qu'à l'Institut Pasteur dans l'unité perception et mémoire. Et Pierre Lemarquis, vous êtes neurologue, neurophysiologiste et auteur d'un livre L'empathie esthétique entre Mozart et Michel-Ange, publié chez Odile Jacob. Quel rapport d'ailleurs entre Mozart et Michel-Ange? Pierre Lemarquis.
Le mot principal, c'est entre essayer de montrer que justement, par le ressenti de l'intérieur, par l'empathie esthétique, malgré le temps et l'espace, Mozart et Michel-Ange ont pu se retrouver en contact pendant un quart d'heure à la chapelle Sixtine. Mozart entendant le Miserere d'Allegri et remontant par résonance jusqu'à Michel-Ange.
Ouais. On va en parler avec vous et voir évidemment comment ces œuvres d'art, quelles qu'elles soient d'ailleurs, en musique ou en peinture, peuvent nous transformer, voire nous permettre de renaître. Emma Laclone, Catherine Dolto, lundi soir, 20h, et quelles que soient les conditions de circulation, on ira vous voir au Théâtre du Châtelet à Paris avec Zumain, la conférence anti-fin du monde. Voici un aperçu du spectacle.
Dans cette conférence, nous allons parler de Zumain. Alors bien sûr, il faut qu'on commence par parler de la planète, de la Lune, du Soleil, du système solaire, de la galaxie, Big Bang évidemment, et tout ça. Et de cette planète, parce qu'on vient d'arriver dessus, et déjà, on a fait un peu de dégâts. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans les océans, avec les poissons, avec les baleines? Qu'est-ce qu'on a fait dans l'air, avec la pollution? Qu'est-ce qu'on fait aux plantes, aux végétaux, avec les OGM, avec toutes les espèces animales qu'on détruit, les plantes, tout ça? Et comment on élève les animaux? Comment on les tue? Comment on les mange? Comment on se met en danger? Comment on fabrique des maladies? Comment on abîme le climat? Enfin, toutes les raisons d'être extrêmement inquiets quand même. Mais heureusement, on va parler aussi de toutes les raisons d'espérer. Parce que les humains, quand même, sont pas si bêtes qu'on croit. Ils vont réagir.
Voilà, c'est très ambitieux toutes ces questions.
Oui, alors,
vous avez un peu fait le tri quand même depuis
ou
pas?
Quand on voit l'image, on voit que pendant que je dis tout ça, elle me bombarde avec des végétaux et que je reste très calme.
Lundi soir, donc Théâtre du Châtelet, après donc une visite aux habitants de Tannes, demain soir en Alsace, le Théâtre du Châtelet, le jour de l'ouverture de la COP21, ça rigole plus Catherine Dolto?
Non, non, ça devient sérieux là.
Carrément le Théâtre du Châtelet?
Oui.
C'était un rêve pour vous d'aller ensemble sur cette scène?
C'était juste le domaine de l'irréel total, et c'est cette dame là, Myriam, qui m'a dit on devrait jouer au Châtelet. J'ai dit bah oui, quelle bonne idée, et puis on a réussi.
Voilà, Myriam Menant ou Emma Laclone, comment je dois vous appeler?
Là c'est moi, c'est Myriam.
C'est Myriam,
c'est pas elle. Hein,
donc j'appelle Myriam, je vous appelle comme ça pendant cette interview, avec un regard critico-clownesque sur toutes les grandes décisions qui ont engagé l'humanité. Ça, c'est le fil rouge tel que vous présentez le spectacle. Spectacle, conférence, parce que ça aussi, c'est votre patte à toutes les deux. Hein.
Toujours, oui, c'est ça.
Ouais. Myriam.
Oui, c'est-à-dire que c'est une conférence visuellement, c'est ce qu'on voit, parce qu'il y a une table et deux chaises et puis deux intervenantes. Mais c'est quand même très théâtral, quoi. Il y a quand même des choses qui se passent qui sont très visuelles.
Ouais. Et il y a toujours un sanglier.
Et il y a toujours un sanglier.
Oui, c'est ça. Et vous êtes devenu totalement inséparable. C'est-à-dire que cette alchimie entre le médecin pédiatre et la clown, ça y est, fonctionne bien, quoi.
Ça fonctionne bien, mais en fait, c'est parce qu'on est né dans le même creuset, d'une certaine façon.
C'est-à-dire...
puisqu'on est toutes les deux des élèves de Jacques Lecoq. On a fait la même école de théâtre, mais à 35 ans de distance.
Ouais.
Mais c'est une école très marquante.
Ouais. Sur le mime?
Au mime, tout le théâtre, improvisation, acrobatie, pantomime blanche,
création,
technique de manipulation, tout, masque.
Et vous avez laissé tomber le spectacle, alors vous, Catherine Dolto?
Oui,
donc
parce
c'est
que
c'est un retour pour vous aussi vers cette
passion.
Voilà,
un cadeau de la vie, parce que moi je me suis rendu compte que j'étais pas assez douée pour faire ce métier, que je considère qu'il faut faire que quand on est le dos au mur, qu'on sait rien faire d'autre tellement c'est dur.
Ouais.
Comme je savais faire autre chose, j'ai fait autre chose. Mais la vie m'a ramené Myriam par hasard, comme ça. Et du coup, je renoue et on s'aperçoit que dans le monde entier, le gang des élèves de Lecoq, c'est un vrai gang.
Il a bien sévi en tout cas.
Oui.
Est-ce que c'est une façon de renaître pour vous, pour reprendre un terme dont on va parler avec Pierre Lemarquis tout à l'heure?
Moi, je pense qu'on renaît tous les jours. Et comme je suis une adoratrice de la plasticité, la plasticité cérébrale, j'espère bien que la modification du cerveau des gens entre l'entrée dans la salle de spectacle et la sortie sera des plus bénéfiques.
Oui, mais là, c'est à l'échelle de votre vie, en tout cas, cette renaissance. Hein, Pierre Lemarquis, c'est intéressant comme exemple, au fond. Hein. Faire du spectacle, s'engager sur une voie plutôt médicale.
Voilà, le digérer, bah c'est presque une catharsis. Enfin, c'est pas vous. Vous êtes sauvé par le spectacle.
J'étais pas perdu.
C'est le spectateur.
C'est intéressant parce que moi j'ai une trajectoire très très chaotique et en fait elle est complètement cohérente. Si on la regarde de loin, mais j'ai fait des études de théâtre, après j'ai fait de la sociologie, après j'ai fait de la médecine, après l'autonomie. Et en fait, je cherchais une seule chose à travers tout ça, c'est-à-dire comprendre les humains dans leur monde et comment ils évoluent et comment on pourrait faire moins mal.
Ouais. Bah ça, c'est le thème du spectacle, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs.
De vos spectacles, Myriam.
De nos trois spectacles.
C'est un peu ce qui revient à chaque fois. La part d'improvisation, elle existe toujours dans ce nouveau spectacle.
Ah bah d'autant plus
ça, c'est quand
nouveau,
même gonflé, hein, moi, je trouve.
Mais le spectateur, il ne le sait pas quand il paye sa place. Il ne sait pas qu'il y a 80% des choses que je vais faire. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avant d'entrer en scène.
80%?
Aujourd'hui, on en est à... Comme il y a des choses théâtrales, elles ont été répétées. Mais disons, il y a beaucoup de choses, disons 50%. 50%, je ne sais pas du tout. Ce que je vais faire, c'est très flippant pour moi, c'est-à-dire que j'ai un trac énorme
c'est
avant,
ça,
mais par contre j'ai une telle espace de liberté pendant que c'est génial, quoi. C'est, le trac est proportionnel à la liberté que j'ai en fait.
Ouais.
Voilà, et ça marche bien parce qu'il y a des choses qu'Emma trouve que j'aurais jamais trouvé moi-même, j'aurais jamais eu l'idée, donc oui.
Pierre-Marie Liedo, qu'est-ce qui peut se passer dans le cerveau de l'improvisateur
en entendant ce sujet de la Renaissance, je... Évidemment, je me rappelle ce que nous dit Emmanuel Kant, l'humain naît deux fois, la première fois lors de son apparition sur Terre et la deuxième fois par l'instruction, par les échanges sociaux.
Ouais.
Bon, Erasmus nous dit, on ne naît pas humain, on le devient par ce genre d'activité-là qui est le propre de l'humain.
Ouais. Emma, la clown, elle est même née trois fois, elle.
Ah bon?
Ben, c'est ce que vous racontez, il y a trois naissances.
Oui, je dis ça.
Oui,
il faut que je... Oui, tout à fait.
C'est écrit dans votre livre, a priori.
En fait,
On
renaît tout le temps.
Sinon, on est mort.
Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrêtent de naître et ils croient qu'ils continuent à vivre, mais non, ils survivent.
Et le thème de l'écologie, alors, ça s'est imposé pour vous, pour ce nouveau spectacle, en tous les cas?
Ça fait longtemps qu'on en parlait, c'est vrai. Et là, avec la COP21, je dois dire, on a voulu quand même être un petit peu là, comme ça, pour pouvoir en parler à ce moment-là, quoi.
C'est compliqué d'entrer dans ce type de thématique sans justement plonger dans quelque chose à la fois de moralisateur et d'anxiogène, Myriam?
C'était l'écueil qu'on a voulu éviter, que je pense qu'on a évité, c'est de, justement, on voulait pas être moralisatrice, ni didactique, ni donneuse de leçons, ni nous, on sait, on va vous montrer, on va vous expliquer. Et je pense qu'on a réussi. Et c'était très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en étudiant le sujet, quand même, parce que...
Mais vous avez beaucoup bossé, apparemment.
C'est
fou.
On ne veut pas dire bêtises.
Des lectures, des rencontres, des films.
Oui, on a...
Vous avez bien potassé.
Oui, on a rencontré des gens formidables qui nous ont dit... Enfin, Hubert Ries, par exemple, qui fait partie de la... Enfin, qui est dans la conférence, nous a dit, moi, je veux bien être dans votre conférence, mais une seule condition, c'est que ça soit un spectacle optimiste.
Ouais. Moi, j'avais déjà été très mal influencée par René Dubos, parce que j'ai eu la chance de rencontrer René Dubos et de le côtoyer d'assez près pendant un moment. Et tout ce qu'il a écrit, déjà en 72, 73, 74, c'est les problématiques de maintenant, avec cette pensée du complexe qu'il avait déjà. Donc j'étais déjà un peu déformée.
Ouais. Mais alors vous avez vraiment beaucoup de sujets, puisque vous allez de la formation de l'univers jusqu'à nos rapports avec les animaux, en passant par la problématique de l'air, de l'eau, de l'agriculture, les OGM. Donc vous partez des origines.
Parce que toujours, quand on veut comprendre un humain, il faut voir d'où il part, pour voir où il va. Donc pour l'espèce humaine, on a appris l'histoire de la planète et des humains, comment ça s'est bidouillé, tout ça. Mais en plus, je crois que maintenant, franchement, la situation est tellement grave. Quand on se renseigne vraiment, quand on va voir des grands spécialistes, on prend la mesure de la gravité de la situation.
C'est ce qui vous a frappé dans toutes les rencontres que vous avez faites?
Oui, pas seulement les rencontres, les lectures.
Ouais.
On se dit, mais tous les esprits un peu avertis, là, il faut qu'ils s'y mettent tous. C'est le seul grand sujet vraiment important, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut pour le bien des humains. Si la planète est plus vivable, c'est ridicule.
Oui.
Donc
Et ça, ce sera bon pour nos neurones alors aussi, Pierre-Marie Liedo.
En fait, l'invention du cortex et l'invention d'un cerveau tel que l'on l'a hérité finalement vient aussi des défis qu'il a dû
affronter,
résoudre tous ces problèmes nouveaux pour lui. Et donc moi, je suis assez optimiste parce que je me dis que voilà, c'est dans l'adversité que ce cerveau peut encore mieux exprimer son potentiel.
Ouais. Oui, mais il faut se réveiller.
Absolument.
Hubert Reeves, donc c'est ce nom que vous avez cité, hein, qui a été important aussi, il sera sur scène ou pas?
En vidéo seulement.
En vidéo, il y aura José Bové et Mathieu Ricard, également une participation via la vidéo.
Oui. Non, pas la vidéo, avec leur voix.
Il y aura leur voix.
Mais ils figurent sous une forme particulière.
On ne peut pas dire, on ne peut pas dire. Un spectacle.
Donc ça, ce sera à Tannes demain en Alsace et donc au Châtelet lundi. Quelle est la répartition des rôles? Alors Emma, la clown, Catherine Dolto, la sachante plutôt, Catherine, c'est ça?
L'humaine?
L'humaine, oui, mais tout le monde est humain sur scène.
Un peu informé et qui essaye de contenir le clown quand même, parce qu'il y a des moments où elle fait des choses avec la planète qui sont pas raisonnables.
Oui, on a un gros ballon planète, et puis je craque, c'est-à-dire dès que j'entends le mot nucléaire, j'ai une crise d'asthme, donc il faut qu'elle me calme.
Je raconte des histoires.
Voilà, il y a un PowerPoint assez basique, presque juste sur la naissance du Big Bang jusqu'à moins 40 000, ils peignent dans les grottes, voilà.
Oui, c'est ambitieux ça aussi, dites donc.
Ah oui, on
fait des... Vous avez peur de rien. 13 milliards d'années, hop, jusqu'à aujourd'hui, quasiment.
Jusqu'à quasiment aujourd'hui, puis on essaye surtout de comprendre comment l'argent, parce que c'est quand même la monnaie qui a fait que le monde est un peu ce qu'il est aujourd'hui, enfin c'est ce qu'on a cru comprendre.
Ouais. Ouais. Enfin, c'est un clown informé quand même, Emma la clown, elle n'est pas totalement candide, elle est un petit peu au courant de ce qui se passe.
Ouais. Myriam, elle prend la part de la candide, de la naïve qui pose des questions, mais c'est vrai qu'elle a quand même une petite connaissance, une petite colère intérieure.
C'est un clown enragé quand même.
Un petit peu, pour ça, oui, pour ce thème-là, oui.
Myriam Menant, c'est également un livre chez Bayard. Emma et moi, la sagesse d'une clown, préfacée justement par Catherine Dolto. C'est votre histoire que vous racontez, l'histoire du clown certes, mais l'histoire de Myriam aussi.
Un peu.
Vous croisez les deux.
Oui, c'est-à-dire que c'est Bayard qui m'a demandé, est-ce que vous voudriez écrire un livre sur votre parcours. Je dis, bon, c'est pas passionnant, qu'est-ce que je raconte? Puis tout à coup, j'ai eu l'idée que ce serait Myriam et Emma qui l'écriraient. Ouais. C'est-à-dire que dans ma vie, je cherche où est-ce qu'elle est née, par où elle a pu arriver, même depuis ma naissance, quoi. Ouais. Donc effectivement, je parle forcément de moi dedans.
Oui, première naissance, donc votre naissance biologique. La deuxième naissance, c'est la première fois que vous avez ri, c'est ça ?
Que j'ai fait rire le public, à 13 ans, tout à fait, oui.
À 13 ans, c'est ça. Et la troisième fois, c'est quoi ? C'est Emma dans le métro ? C'est Emma qui commence à rencontrer le public ?
Oui, je dirais ça. C'est les premiers numéros d'Emma la clown, avec mon collègue Gaetano Lucido, avec lequel on a fait un duo et au début. On a gagné des prix d'humour, des choses comme ça. Oui, je pense que c'est là. Et puis l'écriture, quand j'ai commencé à écrire aussi, en 98.
Catherine Dolto, vous écrivez, c'est fascinant ce parcours, de voir justement le chemin mystérieux, tortueux parfois, douloureux souvent, qui a mené une petite fille trop sensible, trop intelligente, trop hors du moule, et pas assez jolie à son goût, vers son clown. C'est ce que vous écrivez.
C'est bien ça qu'elle raconte dans le livre.
C'est-à-dire que j'avais les oreilles décollées, donc j'étais très, très complexée avec mes grandes oreilles.
Elle ne se trouvait pas jolie alors qu'elle est très belle.
Oui. C'est vrai, absolument. C'est vrai.
On est à la radio. Et ça,
mais c'est vrai, je le confirme, on a l'image.
Non, mais voilà, c'est intéressant parce que c'est une aventure humaine très singulière. C'est un chemin très singulier, la clownerie, qui, moi, m'émeut toujours. Sauf les mauvais clowns. Dans la préface, je dis que je réclame une milice spéciale contre les mauvais clowns. Oui. Parce que là, tout de suite, on a envie de mourir quand on voit un mauvais clown. Tout de suite.
On vous retrouve lundi, Théâtre du Châtelet. Hein, il faut vraiment dire au public que malgré les problèmes de transport qui s'organisent, vous êtes là pour une représentation. Il y a des solutions pour arriver à l'heure, à 20h, et voir Zumain. Donc, ce sera cette conférence anti-fin du monde. Et puis donc, l'Alsace ce soir, et vous allez tourner jusqu'au mois de mars. Il y a d'autres dates qui vont arriver jusqu'au Beauvais. Vous terminerez par Beauvais le 14 mars. Merci beaucoup. Myriam, je sais que vous restez avec nous. Catherine Dolto doit partir. Et dans un instant, nous parlons justement de la plasticité de notre cerveau. Thierry Dupin, notre programmateur très inspiré avec ce Let's Groove d'Earth, Wind and Fire.
Le club des têtes au carré. En partenariat avec TEDx Paris. Sur France Inter.
Pierre-Marie Liédot, vous êtes directeur de recherche au CNRS et à l'Institut Pasteur au sein de l'unité Perception et Mémoire. Myriam Menant, est-ce que vous avez déjà joué à l'Olympia ?
Non.
Vous connaissez pas cette... Eh ben, l'homme que vous avez en face de vous a eu la chance de fouler les planches de l'Olympia. C'était en octobre 2012.
Effectivement.
Et en plus, pour parler de plasticité cérébrale et de régénérescence du cerveau adulte. Il faut le faire quand même.
Oui, c'était un défi finalement de se retrouver sous les feux de la rampe quand on est chercheur. On aime bien au contraire l'obscurité des pièces noires et du microscope. D'un seul coup, propulsé comme ça devant 800, 900 personnes et leur transmettre une passion. Je crois que c'est l'objectif de TEDx. Et ça a dû pas trop mal marcher.
Ouais. Et puis c'est bien d'apporter de la science sur les planches des théâtres, oh, Myriam. C'est ce que vous faites depuis longtemps.
Oui, hein, la connaissance, la science, oui, bien sûr. Oui. Enfin, depuis longtemps, oui. Depuis 2009, je parle de physique quantique maintenant. Mais...
Ouais. La psychanalyse aussi, la ça fait partie de vos discussions. Hein. Alors, on va écouter justement un extrait de l'Olympia de Pierre-Marie Liédot. 12 minutes de consécration. C'était donc en octobre 2012.
Cette notion de plasticité cérébrale nous invite à repenser l'idée d'un cerveau figé. Nous devons plutôt imaginer ce cerveau comme la Sagrada Familia, un chantier permanent, jamais achevé. Et fort de ce principe, nous imaginons aujourd'hui pouvoir encourager les neurones, non pas à travailler uniquement entre eux, mais aussi à travailler avec des prothèses, des électrodes que l'on peut implanter dans notre cerveau. Et grâce à cette plasticité, cette reconfiguration permanente, ces électrodes vont pouvoir travailler en harmonie avec notre cerveau. Merci.
Voilà, et parler du cerveau en 12 minutes, Pierre-Marie Liédot, ben c'est un beau challenge quand même. Hein.
Ben, pas tant que ça, puisque finalement on ne connaît à peine que 10% du fonctionnement du cerveau, donc on peut faire encore plus court.
C'est ça, certainement. Alors là, c'était quand même très préparé, parce que c'est aussi le principe de TEDx. Hein.
Ah, on est loin de l'improvisation.
C'est d'être bien
très
encadré.
Très loin de l'improvisation. D'ailleurs, j'ai regretté cette faiblesse le jour où on m'a appelé au téléphone. J'ai demandé, mais combien de temps voulez-vous que je parle? On m'a dit 12 minutes. Oh, d'habitude, c'est une heure et voire plus. Donc, 12 minutes, j'ai cru que c'était très facile. Ouais. J'ai dit oui. Et en fait, pendant un an, j'ai souffert puisque j'avais les responsables de cette séance à l'Olympia qui sont venus dans mon bureau tous les mois me coacher. Et, ouais, et finalement, ces 12 minutes, c'est le fruit d'un an de travail.
C'est ça. Alors, Myriam Menant parlait tout à l'heure de la part d'improvisation extrêmement importante en ce qui vous concerne, hein, Myriam. Est-ce qu'on peut imaginer ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui improvise sur scène comme ça? C'est l'affolement des neurones ou pas?
Alors, c'est
je sais pas si j'ai envie de savoir. Est-ce que je reste dans la pièce ou pas?
Non, je crois
vous
que c'est...
Vous sembliez avoir envie de
oui,
le savoir.
Oui, ça m'intéresse. En même temps, ça me fait peur. Allez-y.
Non, non, il y a un miracle qui s'opère. C'est-à-dire, c'est ce qu'appellent les scientifiques l'énergie noire du cerveau.
Oh là,
en
ça
gros,
fait peur, ça, déjà.
En gros, on s'aperçoit que, voilà, je peux être concentré ou je peux me relâcher, mais il y a des états intermédiaires où finalement, si on me plonge dans une pièce, le cerveau n'aime pas s'ennuyer et il travaille. Et en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi le vagabondage intellectuel. Mmh. Quand nous étions petits, derrière la banquette que les parents conduisent ou discutent de discussions qu'on comprend pas, bien en regardant les nuages, on s'évapore. Et c'est là où finalement des solutions peuvent apparaître à des problèmes quand finalement on arrête de ce
en relâchement.
On est dans un état finalement de vagabondage intellectuel. Plein de solutions innovantes peuvent apparaître et quand on mesure l'activité électrique,
c'est un
réel embrasement.
Ah,
le cerveau devient là extrêmement énergivore. Voilà, donc il faut promouvoir ces phases dans la journée de finalement de vagabondage intellectuel. Ouais. Je crois que je fais rien et finalement mon cerveau travaille au maximum de son potentiel.
Ça, je suis d'accord tout à fait. Il y a tellement de choses qui en marchant Juste simplement en se promenant, oui. Des idées qui arrivent, des phrases qui arrivent.
On en parlait hier, c'était le thème de l'émission justement. Et alors, quand Myriam improvise sur scène, on imagine donc l'activité électrique de son cerveau, c'est ça
c'est
qui
atomique, là.
Ah là, c'est, on s'emballe. Fait probablement autour du 40-50 Hz. Donc c'est très rapide, évidemment. Donc non, mais c'est vraiment intéressant parce que force est de constater que la société ne cherche pas à promouvoir ces états, puisque il y a ce qu'on peut qualifier d'infobésité. Notre cerveau est bombardé en permanence. Pendant que je vous parle, mon téléphone peut vibrer, etc., etc. Donc ces moments-là, oui. Où on pourrait faire s'adonner au vagabondage intellectuel. En fait, je suis pas en train de faire l'éloge de la paresse, mais presque. C'est-à-dire que faut savoir parfois fermer les écoutilles et laisser s'exprimer son cerveau.
C'est vrai que Catherine dit souvent que l'humain n'est pas fait pour avoir tous ces modes de communication, ces téléphones, ces machins, ces mails, ces trucs-là.
Nous ne sommes pas multitâches, ça c'est un neuromythe. Nous ne sommes pas multitâches, nous sommes bien d'accord. Les hommes comme les femmes.
Ouais. Et cette accumulation d'informations aussi, c'est difficile à gérer pour le cerveau ?
Eh bien oui, ça plombe le cerveau, ça le met dans un état où bien il est. Le problème de l'infobésité, c'est l'infodigestion. C'est qu'est-ce que je fais avec tout...
L'infobésité, on comprend
l'infobésité,
un peu près.
L'infobésité, c'est-à-dire que quand sont pas... ben,
l'infobésité, c'est
trop
très
de
simple.
News.
Ça se quantifie aujourd'hui. On estime à 5 exabytes échangés toutes les 5 minutes.
Qu'est-ce que c'est les exabytes
Les bytes, vous savez, on les manipule sous forme de gigas en général. Donc c'est 5 milliards de gigabytes produits sur la planète et échangés toutes les 5 minutes. Notre cerveau n'est plus fait pour cela. Et ça, c'est vraiment une dimension sur laquelle il faut qu'on s'attarde un tout petit peu, puisque pendant toute l'histoire de l'espèce humaine, nous avons cherché l'information. Nous avions une démarche proactive. Mais depuis les années 85, c'est-à-dire l'arrivée de la toile, cette possibilité de générer des données, les objets connectés aujourd'hui font que je suis dans cette pièce-là, puis je peux savoir que la bouteille de lait, finalement, est quasi vide. Quoi. Il va falloir que je passe chez l'épicier tout à l'heure. Donc c'est le fléau de l'homme moderne qui se trouve maintenant submergé par toutes ces informations, il va falloir trier l'utile du futile.
Et puis aussi, Pierre Lemarquis, se faire du bien en observant des œuvres, par exemple, ou en écoutant.
Hein. Oui, et pour revenir à cette créativité, on disait bien que Mozart, par exemple, disait que les idées lui venaient quand il se détendait. Il venait de manger, il faisait la sieste, et les idées lui venaient à torrent, et il a l'impression que ça venait d'ailleurs. Quand Michel-Ange regardait le bloc de marbre, il a l'impression que la sculpture est déjà à l'intérieur. Il va se contenter de la dégager, donc ça vient de quelque chose d'ailleurs qu'il ne contrôle plus.
Newton, avec sa pomme, il était évidemment, et Archimède, etc., etc. C'est-à-dire que les grandes innovations, qu'elles soient scientifiques, artistiques, viennent dans des situations où le sujet est au repos.
Einstein,
l'éloge de la sieste. Oui. L'éloge de la sieste. Oui. Ben oui, puis même Wagner, c'est pendant une sieste qu'il entend l'ouverture de la tétralogie, l'ouverture de l'or du Rhin, lui vient pendant la sieste. Alors il le raconte avec beaucoup d'embellissement. Enfin, il doit y avoir un petit peu de vérité là-dedans.
Oui. Est-ce que, Myriam Menant, sur scène, justement, au moment de ces improvisations, vous pouvez sentir parfois une sorte de vertige au point d'avoir comme une paralysie de votre esprit, un blanc aussi qui pourrait...
Non.
Non, jamais.
Bah non.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est tellement fourni, je fournis
parce
tellement.
Parce que c'est un tellement... peu sur le fil quand même, non?
Oui, mais je suis tellement présente, j'ai tellement. C'est-à-dire que je suis quand même devant un public, il faut fournir. Et puis je suis tellement à l'écoute de moi-même et à l'écoute du public, et en essayant d'avoir une exigence sur le fil et sur ce que je veux raconter, que je peux pas être. Enfin, Emma Lacloune ne peut pas, et Marianne peut-être pourrait, mais Emma Lacloune, non, elle a toujours du. Et quand il n'y a rien, elle le dit.
Ouais.
C'est tout.
Donc l'électricité fonctionne toujours bien quand même apparemment.
Ben oui, mais ces fameuses périodes que l'on peut connaître de blocage où l'on bute parce qu'on serre la main de quelqu'un et on cherche son nom désespérément viennent justement quand on est concentré sur cette activité intellectuelle ou sémantique, alors que si l'on était un peu plus souvent à l'écoute de son corps, ce que fait un artiste sur scène, bien voilà, je dirais presque le libre arbitre existe, le cerveau peut naviguer, vaguer, ouais. Et trouver plein de surprises finalement qui se mettent dans notre cerveau.
Concrètement, ce que vous avez étudié, ce que vous avez observé, c'est que l'état de bien-être, au sens très large, oui. Favorise le renouvellement des neurones.
C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y existait un potentiel dans ce cerveau de plasticité, c'est-à-dire de reconfiguration. C'est la raison pour laquelle l'analogie entre cerveau et ordinateur ne tient pas, puisque un ordinateur, que je l'utilise à la montagne ou au bord de la mer, il changera pas de configuration. Notre cerveau, si j'apprends à jouer du piano ou si j'apprends une nouvelle langue, mon cerveau, physiquement, on voit, et dans mon laboratoire, on a mis au point des systèmes de fenêtres et on peut regarder comme ça, en temps réel, les circuits être modifiés par l'apprentissage, par la transmission sociale et culturelle. En revanche, on s'aperçoit aussi qu'il faut qu'il y ait des conditions permissives pour que ce cerveau se reconfigure.
C'est-à-dire?
Bah, ces conditions permissives, c'est notamment échapper au stress. Parce que on s'aperçoit que un des freins les plus puissants, bien, ça va être toutes ces hormones qui vont être sécrétées, notamment en cas de stress chronique, le cortisol. Cortisol qui vient figer notre cerveau. On le sait peut-être intuitivement quand on travaille avec quelqu'un qui est stressé. On a beau lui dire les choses, il les retient pas. C'est la preuve que son cerveau est figé. Donc, on s'est rendu compte que et la condition de l'humain moderne, bombardé d'informations, souvent stressé, toujours courant après le temps, eh bien, il n'exprime pas ce potentiel. Donc, je dirais que c'est par défaut. En fait, on a découvert un potentiel et on a, en creusant un tout petit peu, cherché à établir les lois qui permettaient à cette faculté de reconfigurer ce circuit en permanence. Eh bien, il fallait apporter des conditions, notamment de bien-être. On ne va pas parler de bonheur parce que le bonheur est une notion un peu trop floue, en tout cas, qui va dépendre de culture. Mais le bien-être, la santé mentale, c'est ça. C'est-à-dire échapper au stress.
Donc tout ça permet la plasticité de notre cerveau. Et alors, ce qui est très réjouissant, ce sont aussi des découvertes assez récentes, c'est que cette plasticité, elle existe à tout âge.
Absolument.
On peut renouveler nos neurones jusqu'à la fin de notre vie.
Dans des cerveaux aussi âgés que 87 ans, nous pouvons voir des nouveaux neurones âgés de quelques semaines. En somme, des bébés neurones dans un cerveau âgé de 89 ans. Donc
c'est formidable,
Eh ben, bien sûr, c'est de savoir que chez certains, et on l'avait peut-être aussi constaté autour de nous, hein, chez certaines personnes âgées, on sommeillait un éternel adolescent.
Allez, on va rester dans le cerveau justement dans un instant avec Pierre Lemarquis et puis Pierre-Marie Liédo. On peut voir votre conférence justement sur TEDx Paris. Hein, elle est en lien, en vidéo, sur La Tête au Carré pour profiter des 12 minutes justement autour de ce thème. Allez, dans un instant, l'empathie esthétique.
As bright as flame, tangerine, when she dances by, senorita stare and caballero sigh. And I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine. Yeah, she has them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine.
À l'instant, dans notre club de la tête au carré avec Pierre Lemarquis, un livre, L'empathie esthétique entre Mozart et Michel-Ange, c'est aux éditions Odile Jacob. Pour prolonger, au fond, hein, notre discussion, il y a une belle transition là avec ce qu'on vient d'évoquer autour de la plasticité cérébrale.
Oui, Pierre-Marie Liédo confirme toutes les intuitions des philosophes, notamment le premier qui s'intéressa à l'empathie. On oublie souvent que la première fois qu'on employait le mot d'empathie, c'était un philosophe qui décrivait nos réactions face à une œuvre d'art. Donc, il appelait ça, c'était un allemand, il appelait ça Einfühlung, le ressenti de l'intérieur, et il considérait que les œuvres d'art étaient comme des personnes vivantes, donc on s'adressait à une personne vivante, et puis Merleau-Ponty a poursuivi ses idées en disant que nous étions des œuvres d'art.
Donc, mais c'est exactement cette idée que vous prolongez aussi, hein,
voilà.
Pierre Lemarquis.
Donc tout ce que nous a dit Pierre-Marie Liédo confirme ce que disaient les philosophes.
Oui.
Donc c'est passionnant, c'est qu'une musique, notre cerveau, même si on bouge pas, la musique qu'on vient d'entendre, eh ben on est au Brésil, notre cerveau il chantait, il dansait avec cette musique.
C'est vrai.
Et puis si on regarde une toile, on regarde la Joconde, notre cerveau va se comporter comme si on était face à quelqu'un de vivant. On va interpréter les gestes. Si c'est de l'art abstrait, une toile par exemple avec des coups de cutter comme le fait Fontana quoi, dans la toile, notre cerveau va fonctionner comme si on donnait nous-mêmes les coups de cutter dans la toile. Et puis, ce qui est plus récent, ce qui a été montré plus récemment, c'est la littérature. Donc, vous lisez un livre sur 9 jours, 100 pages tous les jours, on dit un gros bouquin, quoi, c'est pas... Eh bien, votre cerveau va se mettre en mode lecture, il va activer cette petite zone qui est entre la vision et la reconnaissance du langage. On a l'impression que les lettres sont comme des images qui nous parlent. Et puis, quand le livre est refermé, pendant quelques jours, si on enregistre notre cerveau, il va continuer de fonctionner comme si on bougeait, comme si on avait des sensations, c'est-à-dire que les personnages du roman sont rentrés dans notre cerveau.
C'est ça.
On lit Madame Bovary, on peut dire comme Flaubert, Madame Bovary, ouais. C'est moi.
C'est extraordinaire. Mais je trouve ça extraordinaire, parce qu'effectivement, ça veut dire que tous les actes, au fond, que nous commettons, ou les œuvres qui nous touchent, nous en sommes imprégnés.
Voilà.
Notre cerveau photographie en permanence.
C'est une possession. Il y a un côté magique.
Une possession.
C'est une possession. Et alors, on nous dit toujours donc que notre cerveau fait de l'esprit, que l'esprit naît de la matière. Eh bien, c'est un bel exemple de chemin inverse. C'est l'esprit d'un créateur qui va s'incarner dans notre cerveau. Donc, le retour est possible.
Oui. Et quelles que soient les époques aussi, hein. Parce qu'on peut être ému face à une paroi dans une grotte par les peintures préhistoriques, et ça reste aussi, ça s'inscrit en nous.
Oui, et puis le Néandertal n'était pas fou, il faisait sa peinture dans la grotte, à l'endroit où la grotte résonnait le mieux. Vous voyez, c'était déjà une Sixtine, la préhistoire, Lascaux, c'est la Sixtine, la préhistoire, avec même sa petite crypte magique, ouais. Où on voit cette première représentation humaine avec un homme qui meurt, ouais. et qui était en érection. Donc tout le monde y va de sa petite histoire, on dit soit il est en train de rêver, c'est pour ça qu'il a une érection, soit si on est neurologue, on dit c'est le buffle qui vient d'abattre, qui l'a fait tomber par terre, donc il a une fracture de la moelle. Et puis on peut dire aussi qu'il retourne à son origine. Mmh. Par sa petite mort, il se rattache à sa grande mort, il revient à ses origines. C'est Woody Allen qui voulait commencer sa vie à l'envers, par la mort, pour finir dans un orgasme.
Ouais. Pierre-Marie Liedo.
Moi, je voulais juste rajouter, pour que nos éditeurs comprennent, qu'ils auront une compréhension de ce que nous disons à ce microphone, d'autant plus précise qu'ils sont capables d'imiter ces mots que nous prononçons et qui vont résonner chez eux. C'est-à-dire que le cerveau est une chambre d'écho de l'autre, et c'est parce que nous sommes dans cette résonance finalement comportementale qui devient émotionnelle qu'il y a la possibilité de décrypter l'intention d'un sujet. C'est ce qu'on appelle la représentation. C'est-à-dire
est-ce que ça a à voir avec les fameux neurones?
Bien sûr, tout à fait.
Mais les neurones miroirs ne sont qu'une photocopie du monde, quoi. Donc il faut aller plus loin, aller vers justement ce système du plaisir et de la récompense qui nous permet de ressentir de l'intérieur, pas uniquement photocopier, mais comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. On disait que pour qu'on puisse améliorer sa plasticité cérébrale, il faut être dans un état de bien-être, mais il faut aussi qu'il y ait quelqu'un en face. Il faut qu'on soit pas tout seul, il faut qu'il y ait un autre cerveau avec lequel on interagit. Si on est Robinson Crusoe, ce serait... Il ne s'en serait jamais sorti s'il n'y avait pas eu Vendredi. Ouais. Et quand vous voyez le film Seul au monde, s'il n'y avait pas le ballon de foot qui est transformé en une personne, Tom Hanks serait devenu fou.
Et on peut se transformer, par exemple, entre autres, en écoutant Bach. Pierre-Marie Liedo, les variations Goldberg. Là, c'était Glenn Gould, hein, dans son interprétation. Pierre Lemarquis, pardon.
Oui.
Comment ça agit, justement? Parce que vous parlez des notes qu'on entend comme d'un être vivant, au fond. Hein.
Oui, puisqu'on chante, on danse, on ressent ce qu'a senti les notes, et puis il n'y a pas un grand interprète qui n'ait pas l'impression d'être visité par le créateur. Quand Glenn Gould joue du Bach, il devient Bach. Ils étaient gauchers tous les deux. Mm-hmm.
Est-ce que nous, en l'écoutant, on devient aussi un peu Jean-Sébastien Bach?
On devient un peu Glenn Gould, il n'y a aucun problème, ça c'est sûr. Bach pénètre à l'intérieur de notre cerveau, puis il nous fait du bien, parce que ces variations Goldberg, c'est l'art de la fugue en général, puisqu'il y a des fugues, c'est très segmenté. Mm-hmm. D'ailleurs, ça c'est amusant, parce qu'on peut faire un petit parallèle entre la segmentation des variations Goldberg et les neuf images du plafond de la chapelle Sixtine qu'a représenté Michel-Ange. C'est un peu la même essence, vous voyez, 3x3, 3 parties, etc., avec chaque fois des fûts qui reviennent.
Très mathématique, hein, d'ailleurs.
Tout à fait, tout à fait. Et ça va même très loin, puisqu'on peut faire un lien entre la musique de Bach, ses fugues, et les mathématiques des fractales, qui ont été inventées pour essayer de donner cohérence au chaos, quoi, si vous voulez. Donc il y a un lien. Bach était sous l'influence de Leibniz, qui était quand même aussi un grand mathématicien, et puis un peu le précurseur de toute cette science mathématique. Donc il y a un lien entre l'empathie esthétique, qui est aussi des allers-retours entre les personnes à une échelle différente, entre les mathématiques des fractales, entre la musique, entre le monde qui nous entoure. On honore Alan Turing pour avoir inventé l'ordinateur, mais ce que cherchait Turing, c'était les équations de la vie. Il inventait l'informatique par hasard, mais il voulait aller beaucoup plus loin. Il a d'ailleurs, c'est moins connu, mais il a
travaillé sur le vivant et la biologie.
Absolument. La biologie, la morphogenèse, et ses idées ont été prouvées il y a 2-3 ans par une équipe de Barcelone. 50 ans après, hommage lui est rendu, puisqu'il avait trouvé des équations de la vie sur la morphogenèse des doigts de la main. Oui. Donc c'était, il a presque réussi ce qu'il recherchait, et c'est pour ça qu'il était tellement admiratif de Walt Disney. Ouais. Parce qu'il voyait des images animées, Blanche-Neige, et il se disait que Walt Disney avait mieux fait que lui pour reproduire artificiellement les images de la vie, et c'est un peu pour ça qu'il a mangé sa pomme et qu'il s'est suicidé en mangeant une pomme pleine de cyanure. Et ce qui est moins connu, c'est qu'il y avait peut-être plusieurs pommes. C'était une espèce de roulette russe, quoi. Il n'y en avait qu'une qui était au cyanure. Mm-hmm. Et donc, il y avait toujours une histoire de probabilité.
Et de hasard. Donc, en écoutant Bach, entre autres, on se fait du bien. Et donc, on fabrique de nouveaux neurones. Est-ce que je résume bien les choses ou pas? C'est un peu grossier mais comme façon de faire,
oui,
mais bon.
Tout à fait. Ben, ce qu'on vient d'aborder, c'est le fameux « le je et le tu » qui fusionnent en un « nous ». On a peut-être pas assez de temps pour développer cette idée-là, mais derrière ce trait se cache aussi la naissance des jugements moraux dans un cerveau. C'est-à-dire que si Pierre devant moi tombe, je lui tends la main. Est-ce de l'altruisme? Pas tout à fait. Parce qu'en le relevant, je me relève. J'ai vu son genou saigner et en fait j'ai mal à mon genou. Vous voyez? Donc voilà, ce cerveau qui est le miroir de l'autre est finalement le trait propre de l'humanité.
Ouais. Myriam, il y a un beau sujet de spectacle là aussi, non?
Oui,
c'est hyper inspirant.
Et
j'imagine.
C'est de vie aussi, de vie, de se comporter avec les autres. Parce que si j'ai la joie à l'intérieur pour l'autre, il la reçoit et forcément ça se propage, quoi. Comme la haine se propage aussi, donc il faut être très vigilant sur ce qu'on
peut-être fait, le génie de Michel-Ange, c'est d'avoir fait les deux index, l'index du créateur et d'Adam, qui ne se touchent pas. C'est dans cet espace que tout se situe, dans cet antre, où se situent les interactions, l'intersubjectivité. Certes, Dieu nous fait à son image, mais nous l'avons fait aussi à la nôtre. Donc c'est parti de l'antre, c'est de là que dérive le créateur, la créature.
Et puis vous parlez aussi de l'effet thérapeutique de l'art dans cet ouvrage qui s'appelle L'Empathie esthétique, c'est passionnant, entre Mozart et Michel-Ange, c'est chez Odile Jacob. Myriam Menon, donc lundi avec Emma Lacloune et Catherine Dolto, c'est au Châtelet à partir de 20h. Il y a encore des places pour voir Zumain, la conférence anti-fin du monde, donc on se précipite pour aller vous applaudir. Et puis ce livre également chez Bayard, Emma et moi, et puis on peut voir votre conférence, Pierre-Marie Liedo, sur le site de TEDx Paris. Merci infiniment les trois.
Merci.
Passez un bon week-end.
Merci.
Et à bientôt.